Admettons ce qui se cache derrière cette petite phrase que nous prononçons de nombreuses fois dans une journée. Quelle heure est-il ?
Au quatrième top, il sera exactement...
midi et des poussières. Midi et des poussières.
Un rendez-vous presque quotidien sur Radio Barthaz.
Des invités, des reportages, des chroniques, de la musique. Une heure d'émission pour raconter ce qu'il se passe ici et un peu plus loin.
Midi et des poussières.
En réalité, pour être tout à fait précis, actuellement c'est le temps atomique, moins 10 secondes, plus une heure.
Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Midi et des Poussières, le nouveau rendez-vous en direct sur Radio Barthaz, tous les mardis, mercredis et jeudis. C'est la deuxième semaine de cette émission, alors je ne sais pas jusqu'à quand je vais l'annoncer comme nouvelle. Jusqu'à quand est-on nouveau ? Est-ce que quand on cesse d'être nouveau, on est directement ancien ? Quel est ce temps qui relie l'état nouveau à l'état ancien ? Dans quel espace-temps se déploie-t-il ? Bref, pour l'instant, moi j'aime bien que ce soit nouveau. On a encore le droit de se tromper, de tester, de laisser tout plein de petites poussières enrayer la machine, comme je l'ai fait hier soir quand j'ai programmé l'émission pour la rediffusion du soir où je me suis trompée de fichier. Voilà, et comme donc c'est encore nouveau, Léo est à la technique pour m'aider. Salut Léo.
Salut Raphaël, il vaut mieux se tromper qu'oublier. Et je te sens bien inspiré par le thème « Première fois » qu'il y a eu Open Barthaz hier soir.
Oui, c'est ça, c'est une première fois pour moi aussi. Réécoutez donc cette émission Open Barthaz, c'était assez émouvant, beaucoup de belles premières fois. Merci donc Léo d'être ici, d'être là. Merci à vous qui nous écoutez sur le 107FM ou en ligne sur radiobarthaz.net. Allez, c'est parti, il est déjà midi et des poussières passées.
Midi et des poussières.
Aujourd'hui, je vous propose une émission consacrée en grande partie à un sujet bien spécifique, c'est les droits de l'enfant. Parce que le 20 novembre dernier était célébrée la Journée internationale des droits de l'enfant. Cette date, elle correspond à l'adoption en 1989 de la Convention internationale des droits de l'enfant par l'ONU, dans le but de reconnaître et de protéger les droits spécifiques des enfants. Et à cette occasion, l'UDAF de la Lozère, la protection judiciaire de la jeunesse et le Conseil départemental de l'accès aux droits, le CDAD 48, eh bien, ils avaient organisé un colloque, une journée pour permettre aux professionnels du secteur de l'enfance d'échanger, de débattre, de réfléchir et de penser les enjeux et les défis liés aux droits fondamentaux de l'enfant. C'était le 18 novembre à l'Université de Nîmes à Mende et je suis allée y tendre le micro de Radio Barthaz pour vous partager un aperçu de ce qu'il s'y est dit. L'amphithéâtre était plein et c'est là que j'ai rencontré les intervenants invités pour animer cette conférence. Il y avait Christophe Dadouche et Dominique Attias. Christophe Dadouche, il est docteur en droit et formateur. Il est auteur de « La protection de l'enfance, un droit en mouvement ». C'est un juriste engagé pour le droit des mineurs. Dominique Attias, elle est avocate spécialisée en droit des personnes, droit des mineurs et violences faites aux femmes. Et ils reviennent sur l'origine du concept de droit de l'enfant, sur les grands enjeux actuels, et ils nous partagent leurs préoccupations. On les écoute.
C'est un concept juridique. Effectivement, il y a un certain nombre de droits qui lui sont reconnus. Alors, dans le code civil, dans le code de santé publique, dans un certain nombre de dispositions. Et puis, c'est aussi des perceptions que la société doit avoir, qui sont indépendantes complètement des droits. Des fois, le droit ne fait que reconnaître des situations préexistantes, par exemple la parole de l'enfant, ça ne devrait pas être simplement une question juridique, ça devrait être une question qui se pose à tout un chacun. Mais effectivement, le droit souvent avalise, entérine des évolutions sociétales préexistantes. C'est les combats qu'on mène pour que ça soit des fois acté dans les textes, ce qui devrait normalement même pas avoir besoin d'être acté dans les textes. Non ?
Absolument, absolument, mais c'est effectivement la conception que la société a de l'enfant. Et qui est ensuite donc décliné en droit, mais c'est effectivement la problématique qu'on a à l'heure actuelle, c'est la perception de l'enfant dans la société française, et donc avec des droits qui sont très imparfaits pour le moment.
Parce que pour revenir un petit peu sur l'historique, quand est-ce qu'ont émergé les droits de l'enfant juridiquement ?
Il n'y a pas une date, si vous voulez. Évidemment, au niveau international, il y a une date, c'est la Convention internationale des droits de l'enfant, 89, ratifiée 90, mais c'est un long processus. Moi, je pourrais dire que ça a commencé pour moi en 70, quand on est passé de la puissance paternelle à l'autorité parentale et qu'on est venu proclamer que c'était les parents qui avaient des droits et des devoirs à l'égard de leur enfant. Donc pour moi, 1970 est une date importante où on n'est pas simplement sur des prérogatives que les parents ont sur leurs enfants, mais des obligations qu'ils ont. Et donc, voilà, il n'y a pas une date que l'on pourrait arrêter comme ça, qui serait... c'est un long parcours, mais j'en ai peut-être une quinzaine de dates qui marquent un tournant.
Et quels sont les grands principes juridiques donc de ces droits de l'enfant aujourd'hui en France ou dans le monde ?
Les grands principes, c'est que, j'allais dire, un, l'enfant est un sujet de droit. C'est déjà un principe absolument fondamental. Deux, c'est qu'il faut le protéger. Trois, qu'il ne peut pas être considéré comme un adulte. En conséquence, il doit être pris en compte sa vulnérabilité. Ça, ce sont déjà trois principes absolument fondamentaux.
Et puis, le protéger, alors du coup, dans les textes, on nous dit dans les domaines de sa santé, de sa sécurité, de sa moralité, de son éducation, de son développement. C'est-à-dire que du coup, la protection, elle est quand même un petit peu ciblée sur un certain nombre d'axes, et en particulier les questions de santé. La société et les parents doivent aux enfants santé, sécurité, protection, etc. Donc voilà, ça se décline dans un certain nombre d'outils.
Et tous ces éléments font partie donc, de cette expression qu'on entend souvent qui est l'intérêt supérieur de l'enfant.
Oui, tout à fait. C'est effectivement, alors, on a reconnu maintenant dans les textes cette notion d'intérêt supérieur. Là, typiquement, ça vient de la Convention internationale des droits de l'enfant. Du coup, dans toute décision, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être au cœur des décisions. Donc ça, c'est le texte international. Et ensuite, ça a irrigué notre droit national. Et effectivement, la notion d'intérêt de l'enfant, on retrouve ça dans une cinquantaine de dispositions législatives, dans plein de codes différents. Donc c'est devenu le maître mot. Mais derrière, effectivement, cette notion-là se cachent les questions de besoin, de sûreté, de sécurité, de protection, etc.
Quel serait, à vos yeux, au vu de votre expérience, Dominique Attias, vous êtes avocate, les enjeux actuels, quelles seraient les attaques, les entraves principales aujourd'hui en France aux droits de l'enfant ?
Alors, les enjeux sont fondamentaux et les enjeux sont toujours fondamentaux en période électorale, on va dire. On a presque l'impression que les droits des enfants régressent. En période électorale, notamment en ce qui concerne l'enfant en conflit avec la loi, car je ne sais pas si vous entendez, on ne parle pas du tout dans les textes internationaux de mineurs délinquants, mais d'enfants en conflit avec la loi, ce qui est donc une perception différente de l'enfant. De nombreux combats sont menés à l'heure actuelle pour faire reconnaître les droits de l'enfant, et notamment, enfin peut-être, mais pour le moment ça me semble très compliqué d'obtenir un code de l'enfance pour voir que veut la société pour ses enfants, notamment en France, qu'il y a quand même tout un mouvement, j'allais dire, régressif sur les droits de l'enfant et les droits des femmes, car les droits des enfants et les droits des femmes sont souvent liés. Et je dois dire aussi que si les droits de l'enfant progressent, c'est grâce aussi aux droits des femmes, bizarrement, en France. Autrement, l'enfant n'est pas du tout pris en compte. Alors que les femmes sont en majorité.
Oui, mais les minorités au sens juridique du terme, du coup.
Et donc, le problème, c'est que, si vous voulez, il y a de très nombreux enjeux à l'heure actuelle. Alors, on a quand même maintenant, notamment des parlementaires qui se battent pour les droits des enfants, mais c'est pas gagné dans la mesure où, malheureusement, comme je vous le disais il y a deux minutes, c'est devenu un enjeu politique, et que dès que les enfants deviennent un enjeu politique, ils en sont perdants. Je ne sais pas ce que tu en penses, mais c'est malheureusement fondamental comme ça à chaque fois.
Mais quand vous dites enjeu politique, qu'est-ce que ça veut dire exactement ?
La délinquance des mineurs, par exemple, c'est un fonds de commerce électoral. Clairement, quand on dit fonds de commerce, c'est-à-dire que du coup, il n'y a pas un candidat qui ne va pas montrer ses biscottos sur le sujet lors de la prochaine présidentielle en disant « Votez pour moi, vous verrez, ces gamins en conflit avec la loi, j'ai des solutions que les autres n'ont pas. »
Parce que ça rejoint toutes les questions liées à la sécurité.
Oui. Bien sûr, et à notre peur de la jeunesse. Il y a deux catégories d'enfants qui morflent particulièrement, c'est effectivement ceux-là. Et puis les mineurs étrangers. Du coup, c'est vraiment des sujets sur lesquels on a l'impression qu'on régresse. Et puis là, on parle de droits de l'enfant en France. Évidemment, aujourd'hui, ça va être le sujet d'eux, mais c'est difficile de parler droits de l'enfant sans fermer les yeux sur ce qui se passe en Ukraine, à Gaza ou autre. Et c'est-à-dire que du coup, les enfants sont les premières victimes de la folie des hommes. Et ça, évidemment, ce n'est pas le cœur de la discussion d'aujourd'hui, mais moi, je ne peux pas ouvrir mon poste télé sans m'émouvoir des situations de gamins qui vivent terrorisés ici ou là.
Et une des problématiques fondamentales, c'est que l'heure actuelle, on parle beaucoup d'économies à faire et que nous avons de grandes craintes sur le choix des économies, et notamment concernant les enfants, puisque les enfants ne votent pas. Donc, là-dessus, c'est un vrai problème, parce que j'allais dire, on tire sur les ambulances, c'est-à-dire la justice. Hein, parce qu'il faut quand même savoir que nous sommes un des pays d'Europe qui avons le budget le plus faible en Europe concernant la justice.
27e sur 28 PIB par habitant consacré à la justice.
Voilà. Ne parlons pas donc aussi de toute l'absence actuelle de moyens pour mettre en œuvre les décisions judiciaires, notamment avec le fait qu'ensuite, tout ce qu'on entend, c'est des cris d'orfraie en disant les mesures n'ont pas été exécutées, ils n'ont pas fait leur boulot, mais ils n'ont pas fait leur boulot parce qu'on ne leur a pas donné le moyen de le faire. Et que je pense que ça va être un leitmotiv sur lequel on va être obligé de se battre et d'expliquer aux gens qu'est-ce qui se passe exactement et d'expliquer aux gens quelle est la difficulté à l'heure actuelle de pouvoir mettre en œuvre les décisions qui sont rendues par les juges.
L'un des exemples les plus évidents de l'absence de portage politique de ce sujet-là, c'est qu'on n'est pas foutu d'avoir un ministre consacré à ce sujet. C'est-à-dire du coup, au mieux, on a eu un sous-secrétaire d'État. Là, on a une haute commissaire à l'enfance, mais dont on n'a pas compris quelles sont ses prérogatives. Et donc, ça montre bien aussi qu'il n'y a pas de portage politique. Alors que je rappelle que Macron avait dit que l'enfance allait être sa priorité. Comme priorité, je dois dire que ça ne saute pas aux yeux au terme de mandature.
Parmi les enfants dont les droits sont souvent chamboulés, on va dire ça comme ça, c'est les enfants qui relèvent de l'ASE, de l'aide sociale à l'enfance. Il y a eu une annonce qui a été faite très récemment par le président de la Caisse des dépôts, ouais. Olivier Sichel, ouais. Qui a annoncé la mobilisation de 550 millions d'euros d'ici à 2028 à destination des départements. Qu'est-ce que vous pensez de cette annonce ?
La question de la protection d'enfance ne se résume pas à une enveloppe budgétaire. Il y a un problème de recrutement massif des assistants familiaux, des éducateurs, de reconnaissance de ces métiers-là. Et c'est pas en disséminant des... Voilà, c'est comment on valorise ces métiers, comment on crée de l'envie à bosser dans ce champ d'intervention. Donc on ne peut pas cracher sur des sommes qui sont posées là. Mais vous donnez ce chiffre-là, 460 millions d'euros d'excédent. Moi, j'habite un département, les Hauts-de-Seine, qui a fini l'année dernière avec 300 millions d'euros d'excédent. Et pour autant... qui ont des gamins dans des hôtels et pris en charge dans des conditions déplorables. Donc un département très riche peut faire de la merde. Et donc la question financière ne suffit pas en soi. L'une des questions, on en parlait ce matin, c'est comment rendre les droits opposables. C'est-à-dire du coup que quand des textes sont votés, ils soient effectifs. Et ça, ce n'est pas qu'une question financière. L'argent, oui, c'est important. Il faut redire que la protection de l'enfance, c'est 10 milliards d'euros chaque année. Et on se demande sincèrement parfois où vont les 10 milliards.
Et si vous voulez, ce qui est quand même extrêmement ennuyeux et assez caractéristique, c'est qu'en protection de l'enfance, quand les lois ne sont pas respectées, il n'y a pas de sanctions. Il n'y a pas de sanctions, donc c'est très très bien de dire vous devez faire ci, vous devez faire là, etc. Mais à partir du moment où il n'y a pas de sanctions, il n'y a pas d'effectivité pour les droits. Parce que pour que les droits soient effectifs, il faut qu'ensuite ils soient reconnus et... Si ils ne sont pas respectés, qu'il y ait une sanction pour, j'allais dire, obliger cette effectivité. Or, c'est un domaine, bizarrement, où, alors que dans tous les droits, il y a des sanctions, en protection de l'enfance, il n'y en a pas.
Alors, il n'y a pas de sanction juridique, et il n'y a pas de sanction politique. Parce que, du coup, dans d'autres domaines, si vous ne respectez pas les droits des personnes en situation de handicap, vous allez vite le sentir passer politiquement, parce qu'il y a un lobby, au sens noble du terme, d'associations qui... porte un combat et qui rappelle qu'ils ont 5 millions d'électeurs derrière eux. Alors que dans le champ de la protection de l'enfance et des droits de l'enfant en général, il n'y a ni la sanction juridique ni la sanction politique. C'est-à-dire que je n'ai jamais vu un gouvernement chanceler ou être ébranlé parce qu'il aurait violé les droits de l'enfant, bien au contraire.
Et quand on dit politique, ça veut dire sociétal. Ce qui est assez étonnant, c'est que, alors qu'on peut dire que médiatiquement, il y a des cris d'orfraie pour certains sujets, là, en ce qui concerne les enfants, lorsqu'il n'y a pas le respect de leurs droits, ça l'est dit, mais on ne peut pas dire qu'il y ait, hormis parmi les professionnels, on ne peut pas dire que la société ait l'air de s'en préoccuper et de vouloir sanctionner les politiques.
Sauf quand il y a des passages à l'acte et qu'on explique que... Voilà, c'est ça. C'est-à-dire que du coup, on dit, regardez, des gamins ont commis des faits. Et là, d'un seul coup, ça ouvre le journal et on dit, comment se fait-il que... C'est-à-dire, on s'émeut de la situation de l'enfance.
Quand l'enfant est coupable.
Quand l'enfant est coupable, alors là, on dit il y a quand même eu des problèmes éducatifs. Bah ouais.
Et quand l'enfant est victime, il y a peut-être aussi une forme de tabou, parce que d'après une étude commandée par le ministère du Travail, de la Santé, des Solidarités et des Familles, réalisée en janvier 2025, 74% des personnes interrogées déclarent avoir du mal à identifier les situations de violence faites aux enfants, ou peut-être aussi qu'elles ne veulent pas les voir.
Oui, parce que j'allais dire, c'est un de mes dadas, on parle d'autorité parentale comme si on ne devait pas se mêler de ce qui se passe. Il y a encore la puissance paternelle qui est comme là, hein, même si elle a été abolie dans les textes, et qu'en conséquence, ça ne concerne que la famille et on ne doit pas aller voir ce qui se passe dans la famille. Donc, on en arrive à des situations pareilles, c'est-à-dire que et les droits des enfants ne bougent pas autant que nous les aimerions, car ce sont quand même les futurs citoyens. Donc j'allais dire, mieux on les intègre, mieux on les protège, mieux on les respecte. Parce que c'est une chose, les enfants ne sont pas respectés. Eh bien, ce seront des citoyens qui seront actifs et positifs dans la société.
Pour finir peut-être sur une note positive, il y a quand même des choses qui bougent, en tout cas des gens qui ont envie de se mobiliser et d'en parler, comme ce colloque aujourd'hui auquel vous êtes venu participer. Quel est l'intérêt de ce genre de réunion entre professionnels des enfants?
Justement, c'est de passer ces messages-là, c'est du coup convaincre les professionnels qu'il y a des combats à mener et que, en dehors de l'accès au droit au singulier, l'un des enjeux, c'est l'accès au droit au pluriel, c'est-à-dire du coup faire... en sorte que ça devienne effectif, c'est-à-dire que tous les acteurs ne soient pas dans un état de sidération et de simples témoins, mais que chacun à sa place mobilise ce qu'il peut mobiliser pour ce combat. C'est pour ça qu'on est venu là, pour essayer de porter ce discours-là.
Et il y a un autre intérêt, à mon avis, c'est aussi de faire tomber, disons, ces fonctionnements en silo, c'est-à-dire de pouvoir échanger avec chacun nos pratiques, avec chacun nos manières de faire. Et aussi, moi je trouve ça très bien, moi je suis à Paris, donc je bouge moins que Christophe, mais je trouve que c'est très bien de pouvoir diffuser aussi, notamment à Paris, notamment auprès de certaines institutions, ce qui se passe en région. On les oublie trop. Il y a des initiatives très intéressantes qui sont faites et il faut les diffuser. Et il faut aussi rappeler tout le travail que font ces travailleurs sociaux en région alors qu'ils sont invisibilisés. Donc je trouve ça formidable.
Le bon signe quand même, c'est le nombre de personnes présentes. Ce qui montre bien qu'a priori, je ne pense pas qu'ils soient là sous contrainte. Et donc qu'il y a déjà au départ un vrai intérêt. On verra le service après-vente, mais en tout cas, ils sont là.
Oui, l'amphithéâtre est en train de se remplir. Je vais vous laisser aller prendre la parole. Merci beaucoup.
Merci à vous.
Chiffon imbibé d'essence, un enfant meurt en silence sur le trottoir de Bogota. Ne s'arrête pas, déchiquetés aux champs de mines, décimés aux premières lignes, morts les enfants de la guerre pour les idées de leur père. Balle à l'ambassade, quelques vieux malades, imbéciles et gravataires, se partagent l'univers. Dans les enfants de Bhopal, d'industrie occidentale, partis dans les eaux du Gange, les avocats s'arrangent. Dans les enfants de la haine, près de nous ou plus lointaine, dans les enfants de la peur, chevrotine dans le cœur. Balle à l'ambassade, quelques vieux malades, imbéciles et militaires, se partagent l'univers. Dans les enfants du Sahel, on accuse le soleil. Dans les enfants de Céveso, dans les arbres, les oiseaux. Dans les enfants de la route, dernier week-end du mois d'août, pas picolé sans doute, deux ou trois verres, quelques gouttes. Balle à l'ambassade, quelques vieux malades. fonctionnaire se partage l'univers. Mort l'enfant qui vivait en moi, qui voyait en ce monde-là un jardin, une rivière et des hommes plutôt frères. Le jardin est une jungle, les hommes sont devenus dingues. La rivière charrie des larmes, un jour l'enfant prend une arme. Balle sur l'ambassade, attentat de grenade, hécatombe au ministère, sous les gravats, les grabataires.
C'était Renaud, Mort les enfants sur Radio Bartas. Désolée, cette chanson est si triste mais si belle et puis ça allait parfaitement avec le thème, j'ai pas pu résister. Vous êtes bien à l'écoute de Midi et des Poussières, donc sur Radio Bartas 107FM et radiobartas.net. Une émission aujourd'hui consacrée aux droits de l'enfant. Un grand colloque était organisé à Mende le 18 novembre dernier, sur ce thème. Une journée proposée aux professionnels du secteur de l'enfance pour leur permettre d'échanger, de se former, de s'écouter et de penser les droits de l'enfant. Et ils sont nombreux, les professionnels impliqués. Il y a la PJJ, la protection judiciaire de la jeunesse, des pédopsychologues et pédopsychiatres, les enseignants, les éducateurs, les services de l'aide sociale à l'enfance, ceux du tribunal. Travailler ensemble n'est pas toujours facile. Assurer une coopération efficace, une communication fluide entre tous les acteurs peut parfois s'avérer compliqué. En Lozère, la petitesse du territoire est en ce sens un avantage car les gens se connaissent et échangent plus facilement. Edith Yedos, juge des enfants au tribunal judiciaire de Mende, intervenait dans ce colloque et elle nous présente les spécificités du territoire lozérien dans le domaine des droits de l'enfant.
Quand je parle de la Lozère, moi, par rapport aux autres départements, je parle d'un petit laboratoire parce que des projets peuvent rapidement être mis en œuvre et modifiés et ajustés et évalués. Et ça, je le vérifie chaque jour au quotidien. Tout est à taille humaine et sans être empêtré dans des procédures administratives complexes, on peut être rapidement en lien les uns avec les autres et que ça reste une volonté. Si c'est une volonté de chacun, les choses sont possibles. Après, ça demande du temps et ça, c'est peut-être la difficulté à laquelle, en tout cas, moi, je suis confrontée.
Et quelles sont les priorités aujourd'hui pour vous dans le domaine des droits de l'enfant, peut-être à l'échelon national, mais aussi plus spécifiquement ici en Lozère?
Alors à l'échelon national, il me semble qu'il conviendrait de tout l'argent qui est mis sur construire des prisons, qu'on le mette plutôt dans la protection de l'enfance, parce que je reste convaincue que si aujourd'hui on s'occupe des enfants correctement, dans quelques années, il y aura besoin de beaucoup moins de places en prison.
Et vous le disiez tout à l'heure dans le colloque, vous sembliez fière de pouvoir dire que en Lozère, justement, il y a un très bon suivi grâce justement aux bonnes collaborations qui fait que, par exemple, il n'y a pas de mineurs non accompagnés qui ne sont pas dans une procédure judiciaire, c'est ça ?
Il n'y a aucun mineur non accompagné, c'est-à-dire des enfants qui sont accueillis par le département parce qu'ils sont isolés sur le territoire français. En Lozère, aucun mineur ce qu'on appelle MNA, n'est concerné par une procédure pénale et n'a commis deux délits en Lozère, et ça depuis plus de 5 ans que je suis ici.
Et donc ça, vous l'expliquez grâce à la collaboration entre les différents services ?
Et surtout la prise en charge, pour le coup, du département qui est en capacité d'offrir une prise en charge qui répond aux besoins des mineurs de quelques pays qu'ils viennent.
Et concernant d'autres types de besoins, quelles seraient les urgences aujourd'hui ici en Lozère, ou au contraire, qu'est-ce qui a déjà été fait et qui fonctionne très bien ?
Alors en termes d'urgence, je pense qu'il faut vraiment qu'on se penche sur la question de la santé mentale des jeunes, des moyens alloués au CMP, à la psychiatrie, qui sont largement insuffisants et qui ne permettent pas aujourd'hui de prendre en compte les difficultés auxquelles sont confrontés les enfants, et on répond par des solutions qui ne sont pas adaptées. C'est que parfois placer un enfant à l'aide sociale à l'enfance parce que la psychiatrie ou les services de pédopsie n'ont pas les moyens de les prendre en charge, je trouve ça à chaque fois très, très complexe. Aujourd'hui j'ai lancé une perche à la psychiatrie, voilà. J'espère que ça sera l'occasion de travailler ensemble, comme ça a été l'occasion avec d'autres de se rencontrer, de se connaître.
Parce qu'une des collaborations sur lesquelles vous voulez vraiment travailler, c'est le lien donc entre vos services au tribunal et les services de psychiatrie pour les enfants.
Alors, en tout cas, je sais que les services de protection de l'enfance travaillent avec la psychiatrie, mais il y a beaucoup d'inconnus sur ce qu'est l'autre et sur quelle est la marge d'action de l'autre. Et le juge des enfants, il est peut-être un peu là pour remettre l'enfant au centre du débat et permettre que des actions un peu coordonnées soient mises en place en faveur des enfants.
On écoutait Edith Yedos, juge des enfants au tribunal de Mende. Et ce colloque s'est clôturé donc à la fin de la journée par une conférence gesticulée proposée par Camille Pasquier de la compagnie Le Gravillon. Conférence intitulée « C'est pour ton bien, ma chérie » et qui abordait la domination adulte comme berceau des soumissions et comment ces rapports et dynamiques de pouvoir peuvent parfois entraver la reconnaissance des droits et de la parole des enfants. C'était une conférence à destination des adultes, car il est souvent plus facile sur ces sujets de s'adresser aux adultes qu'aux enfants.
Moi, j'ai décidé de m'adresser aux adultes parce que je ne me sentais pas à la hauteur pour parler aux enfants, parce que c'est très délicat. En fait, là, ça commence doucement. Cette conférence, elle est vue par parfois des enfants de 8-10 ans qui restent, qui sont intéressés par le sujet, d'autres moins. En fait, ça dépend vraiment. En fait, cette question, elle n'a pas une réponse très claire. Bon, elle dure 2 heures, donc elle n'est pas accessible à un enfant de 5 ans, par exemple, c'est très long, etc. Mais vraiment, après, ça dépend de l'intérêt, en fait, que les enfants ont pour ce sujet. Est-ce qu'ils en parlent à la maison ? Est-ce que ça fait partie de leur vie ? Est-ce qu'ils se posent des questions, etc. ? Est-ce qu'ils vont souvent écouter des gens parler comme ça ? Voilà, donc en fait, aussi bien à 13 ans, un peu complètement désintéressé, et d'autres à 8-10 vont être passionnés parce qu'en fait, ça va les nourrir. Donc voilà, moi, je ne l'ai pas faite fabriquer pour les jeunes personnes précisément. Là, aujourd'hui, ça me fait juste penser, ça me fait vraiment plaisir de l'annoncer, que cette semaine, il y a un outil qui a été créé par le collectif enfantiste et l'association OVO, l'Observatoire de la violence éducative ordinaire, et des militants et militantes donc, de ces assos, qui va sortir, qui s'appelle le maltraitomètre. C'est, vous voyez, le violentomètre des relations hommes-femmes, avec cette espèce d'échelle de verte, orange, rouge, pour essayer de mettre des mots, en tout cas, sur différentes formes de violence qui existent. Et une gradation, bien que c'est un peu... c'est très subjectif de mettre des gradations, et c'est pas forcément exact, donc les outils sont pas parfaits. Mais là, on vient d'en réaliser un à l'attention des enfants. C'est-à-dire avec des mots précis, des situations précises, et des mots de vocabulaire sur leurs ressentis, leurs émotions, leurs... Voilà, pour les accompagner à prendre un petit peu de recul. Et ouais, donc, il sera dispo là dès cette semaine. Il va circuler sur les réseaux sociaux, etc. Mais il y a peu d'outils, peu de prises de parole à l'attention des enfants. En fait, c'est délicat.
Il y a le gouvernement qui mène une campagne en ce moment pour faire rendre plus visible le numéro 119, qui est donc le numéro national d'appel de l'enfance en danger. Est-ce que c'est un outil qui fonctionne selon vous ?
Ben, moi, je n'ai jamais essayé, évidemment, mais je sais qu'il est assez chargé, que derrière, ce n'est vraiment pas forcément facile de pouvoir s'emparer de ce qui se passe, mais enfin, il faut absolument qu'il circule ce numéro et qu'il soit utilisé.
Voilà, donc que ce soit pour des cas de négligence, de violence psychologique, physique ou sexuelle, à la maison, à l'école ou ailleurs, si vous pensez qu'un enfant est en danger, contactez le 119.
Les petits enfants qui tombent du balcon, toute leur enfance défile dans leurs yeux. Elle est courte et ils s'ennuient même un peu. Alors ils regardent ce qui se passe autour d'eux. Ils s'échappent, s'envolent devant les fenêtres. Ils disent bonjour à tous les locataires. On les invite à venir prendre un verre. Ils disent d'accord, mais il ne reste qu'un instant.
C'était Les Petits Enfants d'Alain Bachung à l'instant sur Radio Bartas. Morceau qui clôture notre focus sur les droits de l'enfant qu'on vous a proposé à l'occasion du colloque qui a eu lieu à Mende le 18 novembre dernier sur ce thème.
Midi et des poussières sur Radio Bartas.
Et je suis ravie d'accueillir Victor qui vient d'arriver dans le studio. Salut Victor.
Bonjour.
Alors à Florac, beaucoup de gens te connaissent car tu proposes le vendredi midi à la pompe un déjeuner en musique sous le nom de Midi moins Disque. Et maintenant tu viens nous faire la version radiophonique de ce Midi moins Disque sur Radio Bartas, on est hyper contents. Tu viens nous faire écouter un petit bout d'un des disques que tu passeras donc demain midi à la pompe. Alors avec quoi t'es venu aujourd'hui ?
Alors aujourd'hui, je suis venu avec un album réunionnais, d'un artiste réunionnais des années 80. Enfin, cet album date des années 80, de 86. Et c'est une réédition beaucoup plus récente, là, fait par un label qui est à La Réunion, qui s'appelle Creole Art, et qui réédite pas mal d'albums qui ont disparu, qui se retrouvent plus. Et donc je suis arrivé avec l'album Agniel de Tifok. Voilà. Et donc on va écouter le premier morceau de l'album de la face A qui s'appelle Bueo. Et donc c'est un mélange de maloya traditionnel dans les sonorités, dans les instruments utilisés, le cayam, le rouleur, toutes ces choses-là qui sont symboliques de la musique traditionnelle de La Réunion, mais qui est un peu remaniée et qui est un peu arrangée avec des sonorités beaucoup plus américaines, des choses très jazz, et puis qui mélange en fait une espèce d'ouverture vers l'extérieur, vers le hors Réunion, pour y revenir vraiment de manière très très fine en fait. Enfin, c'est quelque chose que moi j'aime bien et que je découvre petit à petit. Et donc voilà. Enfin, on peut.
On l'écoute.
Ouais.
Léo, tu lances. Ça se lance. On lance les platines en direct hein, sur Radio Bartas. Mais tiens, le son ne sort pas. Est-ce que le son sort ? Ça tourne en tout cas. Qu'est-ce qui se passe ? Ça fait longtemps qu'on n'avait pas utilisé les platines
non, mais je en pense direct dans le studio.
Je
peux la reprendre.
Ouais, on va remettre au début.
Je peux la remettre du début
on va
si tu as envie de combler vite fait.
On va relancer. Et après, tu nous parleras un peu plus de ton intérêt pour la musique réunionnaise et tu pourras nous annoncer... un événement aussi qui n'arrive pas à Florac, mais qui pourra peut-être intéresser certains des auditeurs
de
la radio.
Qui peut intéresser des gens en lien avec Marseille.
Ouais, on écoute.
Hey. vitesse on a gratté, si bon qu'on a râlé.
On écoutait T-Foc avec le morceau Bueo à l'instant sur Radio Bartas. C'était la sélection de Victor de Midi Moins Disque. Et donc, on pourra écouter l'entièreté du disque demain midi à la pompe, c'est ça?
Oui, tout à fait. Si, oui.
Pour ceux qui veulent.
Pour ceux qui veulent.
Et donc, tu es un peu tombé dans la musique réunionnaise en ce moment. Tu es en train de te constituer une petite collection de vinyles.
Oui, une collection de vinyles de la musique de La Réunion, de l'île Maurice, un peu des Seychelles. Et c'est pour, enfin c'est dans le but là de faire un événement sur deux jours en hommage à La Réunion à Marseille dans un restaurant qui nous accueille avec une amie qui est réunionnaise justement et qui a une exposition qui est en cours à Marseille dans une galerie qui s'appelle la galerie Zema et qui finit le 20 décembre, le jour de l'abolition de l'esclavage à La Réunion et du coup symboliquement on voulait faire un jour, puis en fait on a décidé d'en faire deux, où on va faire à manger réunionnais, on va servir toute la journée, et puis passer de la musique de l'océan Indien, enfin en tout cas de cet endroit-là de l'océan Indien.
Donc ceux d'entre vous, chers auditeurs, auditrices, qui passaient à Marseille le 20 décembre, vous pouvez... Comment il s'appelle le restaurant ?
Le restaurant, il s'appelle Toili. C'est au, si je ne me trompe pas, 56 rue Bernard Dubois. Enfin en tout cas, c'est dans le premier arrondissement, près de à Belzins. Et donc c'est le 20 et le 21 décembre qu'on y sera.
Ok, et donc le 20 décembre 1848, c'était le jour de l'abolition de l'esclavage sur l'île de la Réunion. Et ben merci beaucoup, Victor,
d'être passé. Merci beaucoup.
À la semaine prochaine.
Ouais, clairement, la semaine prochaine.
Et nous, on continue cette émission qui touche à sa fin presque. Et donc chaque jour, si vous avez écouté ces derniers jours, en plus de toutes les annonces qu'on relaie sur Radio Bartas, moi j'essaie de donner un rendez-vous, de mettre en lumière un événement qui se passe dans le coin et que je trouve chouette. Mais je dois avouer que pour aujourd'hui, donc jeudi 4 décembre, j'ai rien trouvé. Donc loin de moi de dire qu'il ne se passe rien aujourd'hui. J'ai juste rien trouvé en cherchant. Moi, je suis nouvellement installée dans la région. Donc c'est sûr que plein d'événements passent encore sous mes radars. Et d'ailleurs, n'hésitez pas à m'interpeller pour m'annoncer des choses, me demander de relayer des infos si vous voulez que j'annonce des choses à l'antenne. Et en plus, maintenant, c'est encore plus simple car Radio Bartas a un téléphone portable et il y a même WhatsApp installé dessus. Donc vous pouvez nous envoyer des notes vocales et ça, on adore comme ça. Après, on diffuse vos voix à l'antenne. Donc n'hésitez pas à appeler, à écrire. Je redonne le numéro, c'est le 07 46 26 40 21. Et pour compenser donc ce non-rendez-vous du jour, je vous partage quand même un rendez-vous de nuit. Donc vous n'aurez sûrement pas besoin de moi pour le voir, mais je l'annonce quand même parce que cette nuit, ce sera celle de la dernière pleine lune de 2025 et ce sera même une super lune. Alors une super lune, eh ben, c'est quand la phase pleine coïncide avec le moment où la lune est le plus proche de la Terre. Et ce moment, enfin ce point, quand la lune est la plus proche de la Terre, ça s'appelle... le périgée, et je suis contente, j'ai appris ce mot, et le contraire, quand elle est le plus loin, ça s'appelle l'apogée. Sachez donc que ce soir, la Lune sera à son périgée, à quelques 357 219 km de la Terre. Mais la question c'est, est-ce qu'on pourra la voir? Est-ce que le temps le permettra? Léo, je t'en prie, c'est l'heure de ton point météo.
Au secours, c'est toujours aussi improvisé. aujourd'hui, j'ai essayé de rentrer en communication avec mes articulations et rien, pas de nouvelles. Je ne sais pas s'il fait beau, s'il fait moche, c'est elles qui me disent tout habituellement. Tout ce que je peux vous prédire, c'est que le soleil n'est pas là, il est caché. Après, vu l'heure qu'il est, il n'est peut-être pas caché encore derrière le Rochefort, mais seulement derrière les nuages.
Donc à suivre, regardez bien par la fenêtre. voilà, avant de se quitter, j'annonce que samedi 6 décembre à la Madeleine, on m'a demandé de l'annoncer, il y a un concours de coinche, donc ça commence à 18h samedi, mais vous pouvez venir dès 16h, il y a des initiations pour les débutants, et n'oubliez pas d'amener un lot par équipe, voilà, pour participer, concours de coinche samedi 6 décembre à 18h à la Madeleine. C'est la fin de cette émission, merci à tous et toutes de l'avoir suivi, on se retrouve mardi prochain pour un nouveau numéro de Midi et des Poussières, et d'ici là, restez bien à l'écoute de Radio Bartas sur le 107FM ou sur radiobartas.net. Salut.
Sait-on ce qui se cache derrière cette petite phrase que nous prononçons de nombreuses fois dans une journée ? Quelle heure est-il ?
Au quatrième top, il sera exactement...
midi et des poussières. Midi et des poussières.
Un rendez-vous presque quotidien sur Radio Bartas.
Des invités, des reportages, des chroniques, de la musique. Une heure d'émission pour raconter ce qu'il se passe ici et un peu plus loin.
Midi et des poussières.
En réalité, pour être tout à fait précis, actuellement, c'est le temps atomique, moins 10 secondes, plus une heure.